Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. Eh bien nous sommes le mardi 25 janvier, il est 16h et je suis en compagnie de Maureen, Irène et Ludivine qui viennent nous parler d'un projet en rapport avec l'association Agir pour l'enfance. Eh bien bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Et un bonjour en plus à l'unisson. merci de passer derrière le micro de Radio Campus Tour. Alors peut-être pour un petit peu situer nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement, très rapidement, ce que c'est l'association Agir pour l'enfance? Alors qui se lance? Est-ce que ça sera Irène ou ça sera Ludivine? Je ne vais pas désigner quand même. Eh bien Maureen.
L'association du coup Agir pour l'enfance, c'est une association qui vient en aide aux enfants d'Haïti. Et donc, plus précisément, aussi, ils proposent aussi d'adopter des enfants là-bas. Et puis, on leur envoie des fournitures scolaires, de la nourriture, grâce à des conteneurs chaque année.
Alors, vous avez un lien particulier avec cette association. Vous êtes dans le cadre d'un projet tutoré, je crois.
Voilà, exactement.
Alors, qu'est-ce que c'est un projet tutoré? Quel est ce lien avec l'association? Qu'est-ce que vous y faites?
Alors du coup, nous, on fait partie du projet et on va aider à la communication de l'association. On a pu avoir des rendez-vous avec le président Guy Brault. Il nous a demandé justement d'avoir plus de visibilité pour l'association, avec les réseaux sociaux notamment. Du coup, on va être chargé de la communication pour dire tout ce qu'on fait, actuellement une tombola. Et voilà, du coup, nous, on va créer aussi des événements pour cotiser de l'argent. On a aussi, du coup, une cagnotte litchi. Et tout ce qu'on fait là, bah, ça va être servi pour payer le salaire des professeurs à Haïti pour l'éducation des enfants. Et les collectes de dons qu'on a fait, du coup, ça va être des fournitures qu'on va envoyer dans les conteneurs en avril, normalement.
Donc vous avez donc plusieurs actions, une action plutôt de communication et puis des différentes actions à mener. Vous avez parlé de la tombola, bon, on y reviendra. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes en mission, en poste?
Du coup, ça fait depuis début octobre qu'on a commencé à faire la communication pour l'association. Du coup, voilà.
Et ça s'est passé comment cette rencontre avec l'association? Est-ce que c'est vous qui avez choisi l'association? Pourquoi vous l'avez choisi, si vous l'avez choisi?
Bah, du coup, en fait, on avait le choix avec plusieurs projets. Du coup, personnellement, j'avais choisi Agir pour l'enfant parce que je voulais savoir un peu le monde de l'association. Et comme aussi ma famille fait partie d'Haïti, du coup, je voulais aussi savoir un peu comment ça se passait, un peu genre les associations qui allaient là-bas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Agir pour l'enfant.
D'accord, et vous avez... Parce que vous êtes 7, hein, on nous sommes que 3 dans le studio, mais vous êtes bien plus que ça. Et est-ce que vous avez tout un peu le même rôle, justement, dans ce groupe?
Alors, en fait, on a défini des rôles, mais finalement, oui, on est toutes vraiment axées sur la communication, principalement. Alors, on est 2 à gérer le compte Instagram, même si tout le monde peut poster des stories, parce que du coup, on a tous... les identifiants et on fait vraiment tout ensemble. Et on a aussi du coup fait une page Facebook, un compte Twitter et un compte TikTok.
Un compte TikTok aussi.
Exactement.
Eh bien, ça doit être nouveau pour peut-être les adhérents de l'association qui voilà, sont peut-être découvrent TikTok, je ne sais pas.
Oui, si alors c'est aussi pour toucher plus de monde et pas forcément du coup que les personnes qui connaissaient déjà l'association. C'est vraiment pour du coup... améliorer la visibilité déjà de l'association, parce que c'est vrai que le président, c'était vraiment le point fort sur lequel il appuyait pour les missions qu'on devrait faire. Et du coup, on trouvait ça important, au-delà de la faculté et des étudiants de Tours, qui connaissent un peu via les projets, de faire aussi connaître d'autres personnes sur l'association, même si elle est basée qu'à Tours pour l'instant.
Et justement, comment on fait de la communication alors sur une association, comment ça se passe? Comment on s'adresse au public par rapport au monde associatif? C'est peut-être une question difficile. Hein.
Déjà, on va, c'est par rapport à la création d'événements. Du coup, on peut transmettre les messages qu'on veut faire passer, c'est-à-dire faire connaître l'association et aussi en même temps pouvoir leur dire qu'on aide les enfants d'Haïti. Et d'un autre côté, le président Guy Brouve nous envoie du contenu, c'est-à-dire des photos et des vidéos. Et on va faire des posts justement pour informer la communauté de ce qui se passe justement à Haïti. Par exemple, ils nous ont envoyé des ateliers pour créer des vêtements, pour faire les uniformes des enfants. Et du coup, c'est important de dire que ce qu'ils ont besoin. Et du coup, on essaye de faire des posts le plus possible.
Et alors, ce que vous faites, c'est plutôt tourner vers la communication des actions de l'association, ou alors des fois, par exemple, il y a aussi peut-être de l'appel aux dons. Je ne sais pas comment se finance l'association.
Alors, on fait les deux. Donc, on fait aussi un appel aux dons par rapport à notre cagnotte Litchi. Et après, on met aussi des informations de comment ça se passe, justement, comme Irène vient de le dire, à Haïti. Donc, par rapport à ce qu'ils font, grâce aux dons, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser. Ça permet aussi aux gens de savoir que l'argent qu'ils envoient, elle sert à quelque chose, et leur montrer que du coup, ils en ont bon usage et que c'est important toujours.
C'est à quel public que l'on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse plus à des jeunes, à des gens plus âgés? Vous avez une idée du public auquel vous vous adressez?
Bon, on essaie de toucher un peu tout le monde, de sensibiliser un peu tout le monde, parce que c'est pas que les adultes qui doivent être touchés par rapport à ça, puisque on est quand même étudiants. On essaie aussi de toucher les étudiants aussi pour montrer un peu la réalité des choses, quoi.
Et est-ce que vous-même, avec cette mission, vous avez peut-être pris, je suppose, conscience de certains enjeux que vous n'aviez pas auparavant?
Personnellement, oui, parce que travailler en tant que, même si on ne travaille pas de manière interne dans l'association, mais on voit un peu comment c'est organisé, c'est vraiment pas simple en fait de voir l'organisation qu'il faut mettre en place. Par exemple, même si nous organisons des événements, il n'y a pas trop de monde qui essaye de s'y intéresser aussi. Du coup, c'est un peu difficile aussi, mais du coup, on essaie quand même de mobiliser des choses pour que un maximum de personnes soient touchées.
C'est compliqué, peut-être aussi le temps de crise sanitaire est compliqué pour organiser ce genre d'événement.
C'est ça, parce que comme avec la Covid, tout le monde est un peu cloîtré. Du coup, ils n'essayent pas d'être un peu ouverts par rapport à ce qui se passe autour, puisqu'il y a déjà vraiment la Covid qui est déjà qui prend toute notre... Voilà, c'est ça.
Et ça prend déjà beaucoup de place dans l'espace public. Mais est-ce que aussi, donc, vous avez pris effectivement une certaine conscience des enjeux peut-être du monde associatif? Et est-ce que par rapport aussi à la situation forcément en Haïti, on va en parler plus amplement dans la suite de l'émission, mais est-ce que vous avez peut-être eu un nouveau regard sur cette situation?
C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand... moi, personnellement, je ne me suis pas forcément rendu compte que... Je vis dans mon petit monde et je vois pas forcément ce qu'il y a autour. Et du coup, faire partie de l'association, ça m'a quand même permis d'ouvrir mon point de vue, mes horizons, et de voir que la vie était pas facile partout et que c'était important du coup d'aider les associations pour la communication, agrandir la communauté pour les aides. Et
c'est déjà beaucoup en réalité. C'est déjà beaucoup. Eh bien, écoutez, on va marquer une petite pause musicale et puis on va se retrouver juste après. On va s'écouter un classique de Tribe Called Quest. Ça s'appelle Lyrics to Go et on se retrouve juste après.
Lyrics to go. 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 The rhythmic variation. Waking in the morning, I still represent the nation. When I speak a nation, please don't make the deviation. Rebels of the party who create the drum sensation. Mind is a pit of different information. Microphone is on, so I cross communication. Vogel at the party, then you got the vogelation. Decapitating fools, yo, as if my name was Jason. Making all the fellas at the party lose composure. Hook up the beat with the mic and it's over. Try to request me on the run for whatever. Trials and tribulations that we have to endeavor. On my CeeLo, it's a letter to the better. If you see a shorty that you like, then you sweater. Yeah. Silly with the microphone, in other words, I'm loco. 6'0" with my high complexion cocoa. Representing over mic, it seems to be my daily. I could do a split and turn around like Evan Neely. But when it comes to days like this, I got lyrics to go. Lyrics to go.
I know it's been 2 years, but see, the job was never falling. Would've tried for singing, but that stuff was not my calling. The mic is in effect, so you know I'm never stalling. Walking through the door and all them suckers started hauling. Talk a lot of trash, but no one could seem to beat it. Pull out your microphone and watch the fifer make you eat it. The MCs, they get jelly when the girlies up my belly. Kick a slow dance like my brother R. Kelly. Today's a hip-hop draft, will I be top-seeded? Work too friggin' hard while all the rest were getting weeded. Steady kicking style so I can reach that other level. Don't worry about getting gas, I push the pedal to the metal. Always wanted this cause it surely beats a scramble. I'm Jordan with the mic, huh, wanna gamble? This I dedicate to all the honeys that be bubbling. Cause at the end of the night, you know Malik will have his Trojans. But when it comes to nights like this, I got lyrics to go. Lyrics to go. Lyrics to go. Lyrics to go.
The lyricism is fatal. I can kick your little monkey ass like Kato. Formulate your rhymes like a child forms Plato. Calm and serene like the study was Teo. Poetry machine with correct mechanisms. Immune to disease, I defeat organisms that are waiting in my path. I overstep the critters. Give your ass the willies and your moms to get the jitters. Critters turn to losers, losers are forgotten. Tingle in my core with hopes that I'll stop rocking. Never will that happen, only if it is permitted. Wait. I think somebody shit it. I guess it will be me, cause I'm the only one I'm seeing. I go for what I know, doing the show for human beings. Always try to lead Joe Devil while I follow. Blowing up the spot like Fred did to Rallo. And when it comes to days like this, I got lyrics to go. I got lyrics to go. I got lyrics to go. I got lyrics to go.
De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. C'était Tribe Called Quest, Lyrics to Go. Et vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel Sorté dans la deuxième partie de cette émission. Et on reçoit aujourd'hui plusieurs étudiantes, Maureen, Irène et Ludivine, qui mènent un projet tutoré en accompagnant, notamment dans la communication, l'association Agir pour l'enfant et non pas Agir pour l'enfance. Je rectifie auprès des auditeurs cette petite erreur du début d'émission, mais c'est pas grave, ça arrive. On a déjà un peu évoqué en fait le cadre de votre projet tutoré, vos missions de communication, vos missions aussi de mener des actions pour l'association. Mais cette association, elle est née d'une prise de conscience, celle de parents adoptifs d'enfants qui ont pris conscience des conditions de vie extrêmes à Haïti. Et il était intéressant, je trouve, de rappeler peut-être aux auditeurs les conditions actuelles à Haïti puisqu'on a tous en tête le séisme du 12 janvier 2010 qui a ravagé le pays. Mais en fait, il y a toujours une grande précarité humanitaire, économique et politique dans le pays, notamment en juillet dernier, une instabilité politique avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Est-ce que donc toute cette superposition des crises, comment l'association fait concrètement pour mener une action sur le terrain?
Le président est parti du coup à Haïti avec quelques autres personnes de l'association pour aller aider aussi, donc grâce aussi à des conteneurs pour amener du coup de la nourriture et de quoi faire des travaux aussi, parce que du coup à cause des séismes il y a eu beaucoup de dégâts pour les maisons, et du coup ils ont fait beaucoup de travaux pour aider à rebâtir un peu. Et c'est vrai que c'était assez compliqué de ramener aussi de la nourriture. Il nous a expliqué aussi que du coup, transporter le conteneur était compliqué aussi par l'océan, etc. Parce qu'il y avait des problèmes avec des pirates, et que c'était vraiment qu'il fallait faire vraiment attention dans les zones près d'Haïti.
Ah oui, effectivement, il y a tout un obstacle finalement au monde associatif, notamment dû aussi à l'insécurité en Haïti en ce moment. Et peut-être qu'on peut citer le nom du président, je crois qu'il s'appelle Guy Brault. C'est bien
exactement,
ça.
C'est ça.
Et donc, effectivement, pour tenter d'améliorer la situation et celle des enfants, je crois aussi que l'association mène une action auprès du système éducatif, notamment par la reconstruction. Effectivement, l'association donc, a un aspect éducatif. Je crois qu'elle a un aspect de formation professionnelle aussi. Est-ce que vous faites justement de la communication sur cet aspect éducatif et cet aspect de formation professionnelle?
Alors oui, sur l'aspect éducatif, parce que du coup, ils ont besoin de tissus pour faire les uniformes, parce que là-bas, il faut un uniforme pour aller à l'école. Donc c'est vrai que le fait de permettre d'envoyer des tissus, ça permet aussi aux personnes... du coup, de construire, de coudre leurs uniformes. Du coup, on a aussi envoyé, ils ont aussi envoyé des machines à coudre. Ils ont des leçons de couture aussi là-bas pour pouvoir permettre, du coup, la création de ces uniformes. Et aussi, on leur envoie aussi des fournitures scolaires pour les aider, ainsi que de l'argent pour, du coup, aussi, comme l'avait dit Irène tout à l'heure, du coup, avoir le salaire des professeurs là-bas.
Et il y avait un aspect aussi intéressant que nous avions évoqué un petit peu en off sur cet aspect de communication. C'est peut-être la façon dont on utilise les réseaux sociaux dans un but de communication, mais aussi la différence entre ce but de communication et la façon dont on l'utilise dans la vie quotidienne. Comment vous le présentez, ça, dans la façon dont vous communiquez? Quelle est la différence, finalement?
En fait, nous, on est des jeunes, du coup, c'est vrai qu'on se dit tout de suite, c'est plus simple de faire la communication en passant par des jeunes qui maîtrisent bien les réseaux sociaux. Sauf qu'il ne faut pas oublier aussi que nous, on maîtrise nos réseaux sociaux à notre petite échelle. Et là, c'est une grande échelle pour une association. Ce n'est pas du tout le même impact. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, parce qu'il faut toucher plus de monde, il faut voir beaucoup plus grand que nos amis, etc. Et donc, c'est pas tout le temps évident, parce qu'il faut prévoir les horaires, quand est-ce qu'il faut poster les photos pour toucher le plus de monde. Et c'est vrai que du coup, pour nous, c'est pas toujours évident, même si on a quelques cours là-dessus grâce à nos études de gestion. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de réflexion en avance. Faut savoir ce qu'on va dire, quelle information on va passer. Donc, c'est beaucoup de boulot.
Et en parlant de cet impact, justement, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes, je ne sais pas, vous touchez sur un post Instagram ou sur un post TikTok? Vous avez une idée?
Alors, on touche déjà notre communauté. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de followers sur Instagram. On en a environ 150, il me semble. Et alors, du coup, on est quand même un compte public. Donc, on va quand même toucher pas forcément que les personnes qui sont abonnées. Pareil sur TikTok, c'est vraiment... en fait, ça dépend si ça passe, du coup, dans les pour-toi ou etc., dans le fil de n'importe qui. On peut toucher beaucoup de monde, mais après, tout dépend aussi comment est-ce que le réseau social va aussi relayer du coup la photo ou la vidéo sur TikTok. Donc c'est vrai que ça dépend de nous et pas que.
Il y a tout le problème d'être placé ou non dans l'algorithme.
Exactement.
Des pour toi, je crois, sur TikTok. Voilà, j'ai vaguement ce souvenir du pour toi. Je suis pas un spécialiste de TikTok, je vous l'avoue. Donc, mais j'apprends, peut-être comme tout le monde. Il y avait aussi un aspect peut-être de plus qui revêt de l'association, qui est le fait qu'elle prête une attention particulière au respect de la culture haïtienne, au fait que à la manière de vivre, au fonctionnement du milieu aussi institutionnel haïtien. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous essayez de faire passer dans votre façon de communiquer?
Du coup, à travers nos posts sur Instagram, comme Maureen l'avait dit, en fait, on poste les photos que le président Guibrou nous envoie. Et du coup, à travers ça, on essaye de faire véhiculer en fait, ce que du coup, les enfants parrainés font. Et aussi en montrant leur culture, la manière dont ils s'habillent, leur art qu'ils font. Et du coup, c'est plus à travers les posts qu'on essaie de faire véhiculer ça.
D'ailleurs, tu as parlé du parrainage d'enfants, donc effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Il y a aussi un aspect de l'adoption, je crois, aussi de l'association. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui rentre dans votre mission, cet aspect-là? Vous communiquez aussi là-dessus? Parce que c'est peut-être plus compliqué, l'adoption, c'est quand même un sujet peut-être plus sérieux, même si évidemment, toutes les situations sont quand même sérieuses, mais... Là, ça demande un engagement évidemment particulier, j'imagine.
Oui, c'est vrai que notre mission est de base plus centrée sur la communication et comment faire pour avoir des dons. Mais c'est vrai que l'adoption est un sujet plus sensible. Nous ne sommes pas liés à ce sujet.
À ce sujet-là particulièrement, d'accord. C'est plus...
On n'en parle pas en fait directement. En fait... Je pense qu'on en avait un peu parlé avec le président au début et on voudrait plus que ça soit vraiment les personnes qui sont vraiment intéressées qui aillent du coup sur le site de l'association. C'est vrai que nous, du coup, à notre... En fait, on touche vraiment la plupart des étudiants. C'est vrai que par rapport à notre projet. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les étudiants qui vont sentir...
C'est pas le public.
Oui, voilà, c'est pas le public touché. C'est vraiment la communauté en fait, de l'association qui va plus relayer cette idée et ce besoin d'avoir soit une adoption ou alors soit un...
parrainage.
Exactement.
Effectivement, c'est pas le public cible. Et puis, il y a aussi cet enjeu de pas forcément communiquer aussi sur tous les aspects. Hein, comme tu l'as très bien dit, c'est peut-être aux gens vraiment d'aller prouver leur intérêt et d'aller d'eux-mêmes faire les recherches et les démarches. Eh bien, écoutez, on va se écouter une nouvelle pause musicale, pardon, et se retrouver juste après pour évoquer, dans une dernière partie de l'émission, eh bien, plus précisément, vos actions que l'on a déjà beaucoup évoquées. Puis peut-être, ça sera le moment de rappeler vos différents comptes Instagram, TikTok et Twitter. Et pour l'instant, on va s'écouter Shut Up To Me de Bush Wakas et on se retrouve juste après.
So why you lollygagging?
Cause if one broke the lolly, baby, everybody gag.
So why you lollygagging? So why you lollygagging?
Ask
crack. And talking shit, you need a pamper. I got your motherfuckers on a 5-block scamper. Running, cause I'm coming at ya. I'm gonna splat ya. Won't get help from the 911 dispatcher. What's your location? I gotta laugh at you, cause 911's a joke. Plus you're on Flatbush Avenue, nigga. Your mouth is writing bad checks, your ass can't cash. And now you're caught up in the ass cast. I won't blast, cause you don't need a slug. I cock back my still and then I pound your mug. Ain't nothing like a good gun butt for a nigga who thought that he was bigger. Yeah, I'm skinny, but you ain't gonna win me. Fuck a push up, I set the ambush up. Niggas thought they was bigger than the digger, they get mush up. Shush up when I push up, I'm nasty like a porno. Flick nigga, so suck my dick or get the butt of my shit.
Shut up to me!
De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. Nous sommes déjà dans la troisième partie de votre rendez-vous socio-culturel. Sortez avec trois étudiantes qui viennent nous parler de l'association Agir pour l'enfant et de leurs actions, surtout menées dans le cadre d'un projet tutoré. Et donc, nous avons parlé de l'action de communication, nous avons un petit peu fait le tour de la situation en Haïti, d'une superposition des crises en Haïti, auxquelles vient justement en aide l'association, et particulièrement pour les enfants. Et donc, je crois que vous vouliez nous parler maintenant de vos actions, peut-être par exemple de la tombola, je crois.
Oui, du coup, nous avons organisé une tombola ce semestre. Elle va se dérouler le 22 février. On a réussi à démarcher des lots avec Ocean Drive, notamment, la mairie de Tours et Arcos. Ils ont eu la gentillesse d'accepter le partenariat et de nous donner des lots pour notre tombola. Nous sommes actuellement en train de vendre les tickets de tombola, notamment au site à la fac des Deux-Lions. Mais aussi, on pouvait nous retrouver à travers nos différents réseaux sociaux pour acheter nos tickets de tombola.
Donc ça, c'était une de vos actions. Il y a aussi voilà, une cagnotte litchi. Est-ce que tu en as parlé? Je ne sais plus. Oui, non, tu n'en as pas parlé, je crois.
Non, pas encore. Alors du coup, nous, on a commencé par faire une cagnotte litchi au premier semestre, début octobre. Cette cagnotte, vous pouvez aussi la retrouver au travers de nos réseaux sociaux. Et c'est cette cagnotte qui va nous permettre d'aider au financement des salaires des professeurs à Haïti.
Donc toujours dans le but d'aider le système éducatif haïtien. Et enfin, je crois qu'il y a une action de collecte plus précisément.
Oui, du coup, au premier semestre, nous avons organisé une collecte où on avait eu deux dates où on avait fait la promotion de la collecte à travers la communication, et aussi nous avons pu laisser dans les bâtiments de notre fac des cartons où les étudiants pouvaient déposer leurs dons au cas où s'ils ne pouvaient pas nous rejoindre lors de nos stands.
Eh bien écoutez, ce sont beaucoup d'actions qui, j'espère, vont continuer à être menées en bon terme. Est-ce qu'il y a... Combien de temps encore vous êtes en mission?
Du coup, on est en mission jusqu'au 29 mars.
Jusqu'au 29 mars, donc oui. Pour finaliser un petit peu tous ces projets. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être passé au micro de Radio Campus Tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter? Peut-être indiquer à nos auditeurs vos réseaux sociaux.
Exactement. Donc, si vous voulez nous suivre sur Instagram, donc notre Instagram, c'est tirer du bas, agir pour l'enfant, tirer du bas. Pour notre Twitter, c'est @ agir pour enfant. Et pour le Facebook, c'est agir pour l'enfant Haïti. Et le petit dernier, TikTok, c'est @ agir pour l'enfant.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation, bonne chance pour toutes ces actions.
De rien, merci à vous.
Quant à nous, chers auditeurs, nous continuons cette émission avec le replay d'un podcast de l'émission 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte, présenté par Elisabeth Quin, du lundi au vendredi. Cette fois-ci, cette émission s'intéresse au pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat des consommateurs qui est confronté à une forte inflation après la hausse des tarifs de l'énergie qui s'étend désormais au secteur de l'alimentation. Faut-il mettre en place un contrôle des prix ou augmenter les salaires? C'est la question que se posent Elisabeth Quin et ses intervenants.
Le prix des carburants atteint des records. Il frôle les 2 euros le litre dans certaines stations-service.
C'est trop cher, que ce soit l'essence ou le gasoil, c'est devenu trop cher. Les salaires, ils augmentent pas, mais l'essence, le prix de la vie, ça augmente à mort. Nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
La flambée des prix de l'énergie s'accompagne d'une hausse du coût des matières premières et des produits alimentaires. Pour préserver le pouvoir d'achat de ses clients, Michel-Édouard Leclerc a décidé de casser les prix. 29 centimes la baguette au lieu de 35 et moins de 2 euros le kilo de côtelettes de porc.
On peut pas faire un mur d'augmentation de prix. Je vous dis, on va vers une inflation de 4% que ne pourront pas absorber nos 18 millions de consommateurs de Leclerc.
Les candidats à la présidentielle se sont aussi emparés de la question du pouvoir d'achat. Valérie Pécresse, par exemple, mise sur une hausse des salaires compensée par une baisse des charges.
3% en 2022, je veux 5% en 2023 et ainsi de suite. L'inflation aujourd'hui est en train d'augmenter. Il faut des augmentations de salaire et je crois que les employeurs y sont prêts.
La patronne de la Banque Centrale Européenne confirme voir un léger frémissement. Les salaires en Europe seraient à la hausse. Mais elle met en garde contre une spirale inflationniste.
Il ne faut pas que ça augmente dans des proportions délirantes non plus, parce qu'à ce moment-là, on aura ce qu'on appelle des effets de second tour. Hein, vous avez des prix qui augmentent, des salaires qui augmentent encore plus.
Alors faut-il augmenter les salaires pour les ajuster à la hausse des prix, quitte à alimenter l'inflation? Ou faut-il casser les prix, au risque de mettre en difficulté des industriels ou des éleveurs? Comment préserver le pouvoir d'achat des Français sans faire de dégâts?
Eh bien, on va essayer de voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir Sophie Binet. Vous êtes secrétaire générale de l'Union des ingénieurs, cadres et techniciens CGT et dirigeante de la CGT en charge des droits des femmes. Et selon vous, Sophie Binet, vous dites que l'inflation rend nécessaire aujourd'hui l'augmentation des salaires, d'autant qu'en France, ces derniers sont à un niveau historiquement bas. Il y a urgence aujourd'hui afin de maintenir le pouvoir d'achat. À vos côtés, bonsoir Erwan Tison.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur des études à l'Institut Sapiens. Et selon vous, il ne faut pas avoir peur de l'inflation, car c'est aussi ce qui permet d'augmenter les salaires, dites-vous. En tout cas, bloquer les prix, ce qui est une autre hypothèse, ce ne serait pas, selon vous, une bonne idée. Et puis, à vos côtés, bonsoir Philippe Moati.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, professeur d'économie à l'Université de Paris. Et selon vous, Philippe Moati, le problème de la hausse des prix alimentaires tient au fait qu'elle vient s'ajouter à celle des prix de l'énergie. Et pour les catégories les plus modestes, vous dites que ce sont les mesures ciblées qui finalement s'avèrent les plus efficaces. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Claude, vous avez un chiffre du jour qui résume justement l'état de l'inflation.
Absolument, c'est le chiffre du retour, 2,8, comme les 2,8% d'augmentation des prix à la consommation en France l'an dernier. C'est impressionnant, mais alors dans la zone euro, si je ne dis pas bêtises, c'est 5%. Question pour vous, Philippe Moati, est-ce que nous sommes inquiets de ce retour de l'inflation?
2,8, pour moi qui commence à avoir des cheveux blancs, ce n'est pas un chiffre exceptionnel. Enfin, j'ai connu l'inflation à deux chiffres. Mais ça fait suite à une année de quasi-déflation, en fait, avec la crise. Bah, on a été en situation de surproduction, donc les prix ont baissé, notamment les prix des matières premières, donc une sorte d'effet de rattrapage. Si on raisonne sur 2 ans, on est sur un niveau d'inflation qui reste raisonnable. Donc pour l'instant, il n'y a pas le feu en la demeure. Les spécialistes nous disent qu'en gros, on va commencer l'année sur un rythme à peu près similaire et que théoriquement, on devrait voir le rythme de l'inflation se réduire au fur et à mesure qu'on avancera dans l'année. Ceci dit, aujourd'hui, faire des prévisions, c'est un art particulièrement difficile.
Erwan Tison, c'est un phénomène durable ou pas tant que ça, comme le dit votre voisin?
Vous savez, ça fait 15 ans qu'on s'est habitué à vivre dans un environnement à une inflation quasiment nulle. Donc effectivement, le petit retour de l'inflation, je rappelle, 2,8%, on reste encore dans les standards de la Banque Centrale Européenne qui, dans ses statuts, a pour volonté de faire en sorte que l'inflation reste dans un corridor aux alentours de 2%. Donc, pour l'instant, on voit surtout un phénomène de rattrapage. Hein. La plupart de l'inflation est tirée par les matières premières. Vous avez aussi des coûts de transport qui ont largement augmenté après la crise du Covid. Peu de choses, en tout cas, peuvent nous permettre de dire que ça va être un phénomène durable et en tout cas très massif.
Sophie Binet, mais durable ou pas, ce phénomène impacte déjà la vie des Français, la vie des ménages, parce que l'inflation se fait ressentir, c'est la hausse du prix de l'énergie, c'est la hausse du prix de l'alimentation.
Oui, tout à fait. Le problème, c'est que tout augmente sauf les salaires et qu'il y a un nombre de salariés toujours plus important qui ne peut pas vivre de son travail. Je prendrai quelques exemples. Par exemple, aujourd'hui, les aides à domicile, leur salaire médian mensuel, c'est 700 euros par mois net pour les AESH, celles qui s'occupent de nos enfants handicapés dans les écoles. C'est 800 euros par mois. Le SMIC net, c'est 1200 euros par mois.
Ça a stagné, ce sont des salaires qui stagnent.
Ah bah oui, puisque effectivement, là, depuis plusieurs années, les salaires n'augmentent plus, se tassent, et qu'on a un déclassement. Là, je parle de celles et ceux qui ont les salaires les plus faibles, mais on peut dérouler sur tous les niveaux de qualification. Et aujourd'hui, il n'y a plus de reconnaissance de la qualification avec un déclassement très important des cadres et des professions intermédiaires, à commencer par la fonction publique, où aujourd'hui, les professions intermédiaires commencent au niveau du SMIC quand on est recruté catégorie B dans la fonction publique. Donc, il y a un vrai problème de salaire en France.
– Ce que vous décrivez là, c'est un phénomène qui est antérieur à ce retour de l'inflation dont nous parlons.
Oui, et qui est aggravée.
Ce que vous nous dites, c'est que ça fait un moment que les salaires ne suivent plus.
C'est ça, et c'est aggravé par le retour de l'inflation. Et pourquoi ce phénomène? Parce que depuis plusieurs années, on a dégradé le pouvoir de négociation des travailleuses et travailleurs dans l'entreprise. Et donc, on est confronté soit à pas d'augmentation de salaire, soit même à des baisses de salaire, avec des possibilités maintenant d'avoir des accords de performance collective, du chantage à l'emploi, où on nous dit soit on délocalise, soit on baisse les salaires. Et donc, on a des grandes entreprises qui baissent les salaires et qui baissent les droits collectifs aujourd'hui.
Alors, justement, Sophie Binet, conforter le pouvoir de négociation dans l'entreprise, relancer la négociation au sein de l'entreprise pour les salaires, vous allez trouver un écho peut-être assez inattendu sur cette position.
Écho chez Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui est en faveur de la hausse des salaires. Mais écoutons comment.
J'estime que l'État fait sa part du chemin, que maintenant des négociations de branche doivent s'ouvrir, et je salue l'accord qui a été conclu par exemple sur l'hôtellerie-restauration, où il y a eu une augmentation après des semaines et des semaines de négociations. Il y a des difficultés de recrutement dans ce secteur, il y a eu une augmentation des salaires, l'État a fait sa part du chemin, les entreprises aussi, c'est comme ça qu'un pays avance, quand chacun y met du sien.
Erwan Tison, est-ce qu'on peut dire, comme le ministre, que le pays avance, que l'État a fait sa part et que les entreprises font leur part?
Alors les entreprises font leur part, les branches commencent à faire leur part, effectivement, une négociation à 16% dans la restauration, mais que l'État fait sa part, pas vraiment, parce que, vous savez, c'est un peu le même problème. Sur le pouvoir d'achat, comme sur les salaires, effectivement, il y a un souci quantitatif, mais il est surtout dû au fait de l'interventionnisme de l'État. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous faites la somme des cotisations, justement, sur le salaire, il faut savoir que quand votre employeur vous donne 100, le salarié récupère 57 euros. Pour un salarié, justement, comme madame le citait juste avant, pour un salarié qui est environ à 1300 euros, si jamais son employeur veut l'augmenter de 100 euros net, il faut qu'il augmente de 228 euros. Donc dans un environnement effectivement où les coûts de production ne cessent d'augmenter, où vous avez une intensité concurrentielle entre les entreprises de plus en plus présente, c'est très difficile du coup d'avoir des augmentations de salaire avec un coût fiscal qui est aussi important. Depuis 1996, le salaire médian a progressé deux fois moins vite que le salaire des 10% les plus riches et des 10%
les
plus pauvres.
Médian, c'est le salaire médian qui gagne moins que les gens qui gagnent plus.
Et donc du coup, elle a augmenté deux fois moins que le salaire des 10% les plus riches et des 10% les plus pauvres. Pourquoi? Parce que c'est aux alentours justement du salaire médian, environ 160% du SMIC, que vous avez un maximum d'allègement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez créé une trappe à pauvreté en créant un gap qui est beaucoup trop important. Donc, quand vous allez donner, par exemple, 1 euro en plus à votre salarié qui se situe à ce niveau-là, ça va vous coûter 2, voire 3 euros en plus. Donc, en fait, on a paupérisé la société française en figeant, justement, le niveau autour de ce niveau médian.
Sophie Binet, comment l'État peut-il encourager des négociations salariales qui aboutissent à des augmentations par branche? Comment tordre le bras, entre guillemets, à un certain nombre de chefs d'entreprise? Peut-être est-ce qu'il faut que l'État, par exemple, conditionne un certain nombre d'aides publiques ou d'allègements de charges à des augmentations de salaire?
Oui, ce serait la première chose à faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 150 milliards d'euros annuels d'aides publiques qui ne sont quasiment pas conditionnées. Et donc, c'est un levier majeur d'intervention sur les entreprises. Et même ces aides publiques, elles sont contre-productives, puisqu'il y en a une partie qui sont centrées sur les bas salaires et qui sont véritablement des trappes à bas salaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que peut faire le gouvernement, c'est à travers le code du travail, l'organisation de la négociation collective, donner plus de pouvoir aux salariés dans les négociations. Et là, quand même, l'interview de Bruno Le Maire, on croit rêver, on voit bien qu'on est à la veille d'échéances présidentielles où on se refait une virginité en oubliant les réformes qu'on a faites. Pourquoi est-ce qu'on est en de telles difficultés aujourd'hui pour négocier les salaires? Parce que le gouvernement Macron a fait comme ses prédécesseurs et donc a fragilisé les droits des salariés dans l'entreprise et notre capacité de négocier. Et enfin, ce que peut faire le gouvernement notamment le pouvoir politique, c'est bien sûr l'augmentation du SMIC, qui aujourd'hui ne garantit plus d'augmentation du pouvoir d'achat et garantit seulement la prise en compte de l'inflation, et surtout faire en sorte que les autres salaires suivent. Pendant 30 ans en France, on a eu ce qui s'appelait l'échelle mobile des salaires. C'est ce qui permettait que quand on augmentait le salaire minimum, le reste des autres salaires, l'échelle des salaires suivait de la même augmentation. C'est ce qui existe en Belgique et ce qui garantit comme ça qu'il y ait une répercussion et une garantie de maintien du niveau de vie.
Philippe Moati, c'est sur le niveau de salaire qu'il faut jouer effectivement.
J'entends, je pense qu'effectivement il y a un problème de salaire, et notamment au milieu de l'échelle, incontestablement, mais c'est un problème structurel.
Donc il y a un rattrapage à effectuer.
Il y a un rattrapage à effectuer, simplement je me demande si c'est le bon moment pour l'effectuer. Le risque que tout le monde pointe du doigt, c'est qu'on rentre dans cette fameuse spirale inflationniste. C'est-à-dire qu'on est actuellement sur une inflation par les coûts. Ça commence par les matières premières et l'énergie.
Qu'est-ce que ça veut dire, spirale inflationniste ? On vient d'avoir un mathématicien qui explique qu'il ne fallait pas hésiter à dire qu'on comprend.
Alors, je vais faire encore plus simple.
Qu'est-ce que c'est ?
On appelle ça la boucle salaire-prix. Mais c'est très simple à comprendre. Les coûts augmentent. Donc, les prix augmentent. Les salariés, légitimement, demandent au moins la protection de leur pouvoir d'achat, voire même en profiter pour en avoir un petit peu plus. Donc, les coûts salariaux dans les entreprises augmentent. Donc, on va être incité à monter encore les prix. Et les salariés vont donc demander une augmentation de salaire supplémentaire, ce qui va encore augmenter les coûts. Donc, vous voyez, on va rentrer dans la spirale. Et l'échelle mobile des salaires, c'est typiquement l'un des facteurs qui faisait qu'on était sur une inflation à deux chiffres et qu'on n'arrivait pas à en sortir.
Oui,
donc, ça
n'en a
rien à la légitimité de la
revendication.
Je dis simplement, laissons passer cet épisode inflationniste et on remettra sur la table, parce que c'est un vrai sujet, la question des salaires.
Alors, en tout cas, vous évoquiez le risque de spirale inflationniste. Il y a un autre pays, et pas n'importe lequel, Nadia, dont l'économie est en surchauffe en quelque sorte, ce sont les États-Unis.
Les États-Unis, effectivement, avec des chiffres qui sont tout à fait spectaculaires. L'inflation atteint désormais 7%, c'est-à-dire un chiffre jamais vu depuis 40 ans. C'est pas compliqué, tout augmente ou presque, pas seulement l'essence qui a bondi de 50%, mais aussi l'alimentation, les véhicules, qu'ils soient neufs ou d'occasion, l'hôtellerie, la restauration ou encore l'immobilier. Dans l'immobilier, les prix viennent de grimper de près de 20%, c'est dire si l'inflation c'est devenu un sujet de préoccupation pour tous les Américains. C'est aussi devenu un sujet politique puisque l'opposition reproche à Joe Biden d'avoir provoqué cette envolée des prix avec des plans de relance trop généreux ou peut-être en tout cas pas assez ciblés. Les républicains parlent même de Bidenflation, c'est de l'anglais je crois, il faut rappeler. En effet, qu'entre mars 2020 et mars 2021, ce sont quelque 5000 milliards de dollars qui ont été injectés aux entreprises, aux petites entreprises, mais aussi aux ménages. C'est de l'argent frais qui a provoqué une hausse brutale de la consommation. Ça s'est également accompagné d'une augmentation des salaires assez nette. Et on entre peut-être là dans la spirale dont vous parliez. En août dernier, le salaire moyen affichait une progression de 4,3%. Dans l'hôtellerie et dans la restauration, on frôle les 10%. Erwan Tison, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer, nous, en France, de cette situation que je viens de décrire ? Qu'est-ce qu'il faut garder et peut-être
quand on organise l'arrêt de l'offre et de la pénurie sur certains secteurs, effectivement, c'est inflationniste. Vous aviez cité deux secteurs qui sont intéressants. Le marché de l'occasion de la voiture a explosé. On a fait plus de 40, voire 50% dans certains domaines. Pourquoi ? Parce que le marché de l'offre de voitures neuves, en fait, a été bloqué. Pendant un an, les usines n'ont pas pu produire. Donc, du coup, en bloquant cette offre-là, on s'est reporté justement sur les ventes, les achats de voitures d'occasion, ce qui, mécaniquement, quand vous avez une explosion de la demande, a fait pareil sur l'immobilier. Vous avez des fortes contraintes sur la construction dans l'immobilier aux États-Unis qui fait qu'en fait, vous n'avez pas de renouvellement de nouveaux stocks de logements. Donc, du coup, c'est ça qui fait exploser le prix. En France, on a quelque part les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que la solution avancée par certains de vouloir bloquer les prix serait absolument catastrophique et serait elle aussi inflationniste, voire créer des pénuries. Je m'explique. Si par exemple, aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné, par exemple, sur les logements où on a plafonné les loyers, on a vu qu'en fait, dans les zones en question, on avait une diminution de l'offre de logements disponibles. Si jamais vous bloquez un prix, par exemple, à 10 euros et que votre prix de production, en fait, est à 11 euros, le producteur n'aura aucune envie de justement produire. Il ne va pas se mettre à produire à perte. Donc, il va se mettre à ne plus produire. Ou alors à vendre sur des marchés étrangers et ainsi de suite. Et donc, du coup, vous créez de la pénurie et donc, du coup, les stocks disponibles, le prix explose. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur des marchés trop réglementés en France, comme c'est le cas notamment sur l'immobilier. Vous avez eu des contraintes sur le marché de l'énergie avec une fermeture notamment de Fessenheim qui, du coup, a diminué la production et vous avez une augmentation de la demande liée aux températures. Donc, du coup, vous avez une explosion du prix. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on voit que la plupart des solutions qui paraissent très séduisantes sur le court terme de bloquer un prix, on se dit, c'est facile, je bloque le. En fait, il y a des effets pervers à long terme qui cassent complètement la mécanique de marché et qui du coup sont des prophéties autorisatrices qu'on appelle en économie, qui en fait vont être beaucoup plus pires que le mal auquel on essaie de répondre initialement.
Bloquer les prix, même sur certains produits, même dans certaines situations d'urgence et d'urgence sociale, c'est pas une solution qui pourrait s'imposer ?
Non, je crois que ce ne serait pas une bonne solution à moyen terme. L'enjeu, c'est de permettre aux gens de bien consommer et donc d'avoir des salaires en correspondance. Personne n'a envie d'être obligé de s'acheter une baguette à 20 centimes ou de la viande à 2 euros, sachant qu'on se demande...
Vous faites allusion à l'opération des magasins
locaux. C'est ça. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ? Je pense que les salariés français, ils ont envie de pouvoir manger des bons produits, produits en France, avec des normes sociales et environnementales, et donc tirer vers le bas les prix et enfermer dans une économie du low cost, ce n'est pas la solution. Moi, je voudrais parler d'une inflation dont on ne parle jamais, c'est l'inflation des dividendes. Parce que le problème, c'est que les politiques publiques mises en place depuis la crise ont fait exploser les inégalités au plan français et au plan mondial. En France, il y a 5 milliardaires qui possèdent la même fortune que 40% des ménages français.
Et qui se sont enrichis pendant
ces 5 milliardaires, leur fortune a doublé depuis mars 2020. Donc c'est ça, aujourd'hui, l'inflation sur laquelle il faut travailler, c'est cela. Et donc, il faut s'attaquer à ces distributions de dividendes. Je rappelle que la France est championne d'Europe en matière de distribution de dividendes et que c'est la première entrave.
Pourquoi ça conforterait le pouvoir d'achat des Français?
Et ben, parce que le problème, c'est que la marge des entreprises, elle est absorbée par le coût du capital et par la distribution de dividendes. Qu'en période de crise, en période de vache maigre comme en période de vache grasse, de toute manière, le coût du dividende, on n'y touche pas, voire on l'augmente. Et ce qu'on ajuste, c'est les prix qui augmentent ou les salaires qui baissent. Mais les actionnaires ont toujours leur situation qui est préservée et c'est ça le problème aujourd'hui.
Philippe Moati, sur la question du blocage des prix, est-ce que c'est une solution aussi, une hypothèse que vous écartez? Il y a notamment la question, et vous l'évoquiez, de la juste rémunération des producteurs. Et on peut penser notamment aux négociations de la loi Egalim, rendez-vous annuel pour négocier justement la rémunération, enfin les relations entre producteurs et distributeurs. Est-ce que ça interdit ces efforts sur les prix qu'on a pu voir, donc de la part notamment de certaines grandes enseignes de distribution qui cassent les prix sur certains produits?
Il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'on a voté deux lois, vous avez rappelé Egalim 1 et Egalim 2, pour protéger le revenu des producteurs. L'inflation qu'on a connue, c'était essentiellement pour l'instant, pour les ménages, en tout cas, c'était l'énergie et le carburant. Ce qu'on va connaître dans les mois qui viennent, ce sont les produits de grande consommation, et en particulier les produits alimentaires.
Ça commence à frémir. Les fruits, légumes, sur...
Absolument. Donc ça veut dire que si on bloque ces prix-là, ben, il va y avoir un jeu de taquet qui va partir du distributeur pour remonter jusqu'au producteur. Et en fait, on va complètement étrangler les petits producteurs. C'est complètement l'inverse de la politique qu'on a suivie jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment la dernière des politiques à mettre en place. On a parlé beaucoup du gaz, de l'électricité, même de l'essence. Ce sont des prix sur lesquels l'État a plus ou moins la main.
C'est le cas sur le gaz. Le prix du gaz est bloqué pour l'année 2022.
Exactement, mais l'État a la main dessus. Il a qu'à passer un deal avec les opérateurs, absolument. L'électricité, n'en parlons pas. L'essence, c'est essentiellement des taxes.
Même si ça coûte cher, l'État, quand même. Donc,
ça coûte très cher. On évalue à peu près 15 milliards le coût de l'opération pour l'instant pour l'État. Donc c'est considérable. Donc si on doit donner un coup de pouce aux ménages pour traverser cette crise... Les salaires, j'entends, mais tout le monde n'est pas salarié.
Il y a
les chômeurs, les retraités, voilà. Donc, moi, il me semble que si vraiment il faut faire passer cet épisode pour la population, c'est les plus modestes qu'il faut protéger. Les plus modestes pour lesquels, voilà, des mesures ciblées, mais beaucoup plus ciblées que le chèque énergie qui a été distribué à des millions de personnes et qui a coûté très cher.
Alors en tout cas, comment satisfaire donc les attentes des consommateurs d'un côté tout en garantissant la rémunération des producteurs de l'autre? Eh bien, c'est l'ambition de Nicolas Chabanne, ce drôle de patron qui passe au rayon X du bon docteur Thibault.
Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Nicolas Chabanne, j'ai vos radios sous les yeux, c'est demain! Vous êtes un patron du futur, inventeur en 2016 d'un produit d'avenir, le lait qui rémunère son producteur. Vendu au supermarché sous la marque C'est qui le patron, vos briques revendiquent de coûter plus cher que leurs copines de rayonnage, au nom d'un certain idéal lipidique ou huile de coude, vos beurre dans les épinards.
Chaque année, le 1er janvier, on a 1600 milliards d'euros dans nos poches. Si on décide de l'amener dans les entreprises qui payent bien leurs salariés, vers des producteurs qui gagnent leur vie, on comprend bien qu'on a notre destin commun dans nos poches.
Selon l'évangile des têtes de gondole, l'Institut Nielsen, en décembre, votre lait était le plus vendu en France, devant Lactel et Candia. Désormais, c'est toujours sans publicité ni commerciaux, votre beurre bio qui prend la pole devant Président Bio et Grand Fermage. Ah, cette ambiance Fat and Furious, ça transpire la caséine. Magie du sport. Oui, sauf que vous détestez le sport comme Churchill. Vos ressources sont ailleurs. 4 ans d'études littéraires à la Sorbonne, aucun diplôme, mais du pif. Vous créez un réseau de stations de lavage solidaire, puis vous bossez dans la com. Et vous connaissez le grand soir avec la confrérie de la fraise de Carpentras dont vous assurez la promotion. Chaque barquette affiche la trombine de son producteur et vend sa qualité 30% plus cher. Oui, madame. Quand tu mets ta fraise sur tes fraises, il se passe quelque chose. Vous lancerez aussi le label Gueule Cassée pour réhabiliter les fruits et légumes qui ont l'air d'avoir connu les tranchées. Le New York Times Sesbo dit et titre « Sauvez la planète, mangez moche ». Les Nations Unies vous invitent, HEC vous récompense. Avec vos briques de lait super disruptives, c'est Macron qui vous cite en exemple. Le petit cœur de la Startup Nation se gonfle devant un verre de lait, produit ultra connecté à la vie. N'empêche que les vaches ne touchent toujours rien. Et ça, c'est pas normal. Mon cher Nicolas, la justice est dans le pré et dans le présentoir.
Merci Thibonold. Claude.
Loin de Tison, est-ce que cette histoire nous prouve que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour une alimentation juste, voire de qualité? Ou est-ce que c'est fatigant de voir toujours des héros dans la sphère entrepreneuriale quand c'est des gens ordinaires qui morflent?
Mais de toute façon, on a besoin des héros de la sphère entrepreneuriale. C'est eux qui détiennent les solutions justement pour réconcilier développement économique et respect des normes environnementales. Non, mais c'est un très bon sujet parce qu'au final, je pense que les gens, il y a une appétence vraiment à avoir une consommation un peu plus éclairée. Pendant des années, on a fait l'apologie du low cost. Faut savoir qu'en fait, c'est le low cost quelque part qui nous a amené dans la situation dans laquelle on n'est pas la diminution des prix qui elle est vraiment démocratique et qui est une tendance de long terme d'un point de vue économique. Mais le fait d'avoir fait justement une course au moins-disant social et de chercher toujours à produire en cassant les marges, du coup, ça nous a cassé la productivité. Ça a cassé l'échelle des salaires, ça a permis moins de distribution et c'est ça quelque part qui a cassé le pouvoir d'achat. Donc le fait de pouvoir chercher, de se dire je vais consommer peut-être mettre quelques centimes de plus, mais je vais enclencher une dynamique vertueuse d'un point de vue économique, après moi aussi je vais récupérer un peu plus d'argent dans mon propre pouvoir d'achat.
Sophie Binet, il y a un bon usage de l'inflation qui revient pour les salariés?
Aujourd'hui, non, parce que, par exemple, les augmentations à Carrefour, c'est 1% d'augmentation salariale aujourd'hui qui est consentie par la direction du groupe, alors que le dividende double. Donc, on voit qu'il n'y a aucune automaticité. Il y a une urgence à reconnaître les qualifications. C'est une des leçons de la crise. Pourquoi est-ce qu'on a été en difficulté? C'est qu'on n'attire plus nos scientifiques, nos médecins, nos professionnels de santé, de l'enseignement, parce qu'on ne rémunère pas les qualifications. Et puis, la dernière chose, c'est attention aux fausses bonnes idées. On veut une augmentation du salaire brut, c'est-à-dire aussi les cotisations sociales qui vont payer le chômage, la retraite, le salaire différé. Attention à ce qu'on ne nous prenne pas d'une main, ce qu'on nous donne de l'autre, en nous faisant croire qu'on augmenterait notre pouvoir d'achat avec une simple augmentation du salaire net.
Merci à tous les trois d'être venus débattre. Ce sera le mot de la fin pour ce soir. Merci d'être venus.